C'est à la fois une chose attendue et une surprise. C'est bizarre, hein? Attendue parce que depuis le santo subito du 8 avril 2005, au moment où on enterrait Jean-Paul II, là, il y avait une surprise, quoi. Ce grand cri qu'a jailli de la foule, santo subito, santo subito. Alors le lendemain, les cardinaux étaient un peu interdits, donc on était dans ces réunions préparatoires avant le conclave, et on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec une demande comme ça? Est-ce qu'on peut le proclamer saint, puisque le peuple saint le demande? Puis on a voté, puis on a dit, ben non, en fait, il faut remettre cette décision à celui qui sera élu pape. Donc du coup, quand Benoît XVI a été élu, il a dit, ben non, on fera un procès comme pour tout le monde. La seule chose que je peux faire, c'est faire sauter le délai de 5 ans, exactement comme l'avait fait Jean-Paul II pour Mère Teresa. Donc c'est attendu, cette béatification. On savait qu'elle irait vite, on savait que c'était qu'il y avait quelque chose de particulier, quoi, dans cette figure, dans cette annonce de sa béatification, etc. Et en même temps, c'est quand même une assez grosse surprise, finalement. C'est-à-dire qu'il est encore tout proche. On a l'impression qu'on a blagué avec lui, je me rappelle les petits déjeuners pris avec lui, etc. Et alors, on dit, oh là là, ben déjà un béatifié comme ça. Alors, pour moi, c'est ça qui me surprend, c'est d'avoir l'idée que quelqu'un que j'ai touché, connu, approché de près, avec qui j'ai concélébré, avec qui j'ai discuté plein de fois, ben voilà, il est béatifié, quoi. Donc, c'est quand même un événement considérable, voilà. Donc, ce sont des sentiments contradictoires, mais je pense qu'ils sont compréhensibles tous les deux, être à la fois réjoui, une chose qu'on attendait, et en même temps surpris par l'événement.
On a l'impression un peu de revenir à l'image de Jean-Paul II comme si c'était des obsèques, mais sans l'émotion de la disparition et avec le recul 6 ans après.
Il est tout entier là, hein, c'est ça qui est assez impressionnant. On est 6 ans plus tard, il est tout entier là. On est comme au moment des obsèques. Remarquez, dans les obsèques, vous avez de l'émotion, ça, et pas de tristesse. J'ai remarqué ça souvent. Quand il y a le départ d'un père ou d'un grand-père dans une famille, il y a la tristesse, parce qu'il y avait des liens affectifs profonds. Quand c'est le départ d'un prêtre, d'un évêque, d'un pape, il n'y a pas la même tristesse. Il y a surtout une immense action de grâce. Cela dit, c'est vrai, il y avait une grande, grande émotion, quoi. Et là, elle s'est estompée, parce que ça fait 6 ans qu'il est parti, mais on a l'impression qu'il redevient étonnamment et incroyablement présent, quoi. Vous voyez, ce matin, j'entendais donc un enseignement de Monseigneur Bocardo sur la miséricorde, et on voyait comment cet évêque qu'il a beaucoup approché, finalement, nous redonnait tout son ministère à travers un mot, qui est le mot de la miséricorde. Et c'est un peu le chemin que nous sommes en train de faire, les textes qui nous ont marqués, les moments de sa vie, les regards, les gestes, les sermons, les messes, enfin les plus belles qu'on a vécues avec lui. Tout devient là présent. Moi, j'ai l'impression que le moment où il m'a remis mon anneau de cardinal en 2003, c'était hier. Alors je vois les photos, je me dis, ah bah oui, bien sûr, c'était juste à côté, c'était ici. Enfin, tout nous parle avec une assez grande proximité.
Vous vous souvenez de ces premiers jours de pontificat?
C'est-à-dire qu'il y a eu un événement de joie énorme, quoi. Moi, je me rappelle encore dans ces vêtements mal taillés, le soir du lundi 16 octobre 1978. Il faisait vieux alors qu'il n'était pas. Après, on a vu son extraordinaire jeunesse et sa force, quoi. Mais alors là, bon, comme on met au pape les vêtements qui ont été pré-taillés, ça lui allait plus ou moins. On avait l'impression déjà que c'était un vieux monsieur. Et moi qui le connaissais bien, je dis, bah non, c'est pas lui, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis tout à coup, on a vu le bonhomme se redéployer, exploser, redevenir véritablement lui-même. Ça, je crois que c'est des cadeaux pour la face du monde. Le n'ayez pas peur, c'est pas un souvenir de moi, quoi. Si vous me dites que je me ressouviens de moi quand il a dit n'ayez pas peur, je dis non, non. Je me souviens par exemple du sentiment d'Hervé Frossard qui dit j'ai l'impression que le pêcheur de Galilée est arrivé, qu'on est exactement devant Saint-Pierre, qui disait allez, n'ayez pas peur, jetez les filets, envoyez-moi tout ça en l'air. Enfin, il y avait une liberté, une force, une allégresse qui a déferlé sur le monde quand même. Vous voyez? Tenez par exemple, un souvenir que j'ai qui ne vous concerne pas justement. Janvier 1979, son premier voyage. C'est au Mexique. Bon, quelques semaines auparavant, le président de la République française avait fait un voyage officiel au Mexique. Et à la télé, on avait eu 3-4 photos de Giscard d'Estaing. D'ailleurs, je défie quiconque de souvenir que Giscard d'Estaing avait fait un voyage à ce moment-là au Mexique. Tandis que le premier voyage de Jean-Paul II, ça a été un bouleversement, mais dans le monde entier. En France, on a été beaucoup plus frappé par ce premier voyage du pape dans un pays lointain quand même, le Mexique, et qui a frappé les Français beaucoup plus que le voyage de leur propre président quelques semaines plus tôt dans cet endroit-là. Donc après, ces voyages, ça a été comme ça tout le temps. Parce qu'après, quand il est allé au Brésil, moi j'avais suivi le Brésil de près parce qu'on l'avait eu le mois d'avant au Parc des Princes à Paris, etc. Et dit, dans un mois, je serai au Brésil. Ah! Je me suis dit, tiens, en France, il a commenté le jeune homme riche, évidemment. Hein. Il a commenté le jeune homme riche à Boston, ah oui, bah oui, à Paris, c'est-à-dire pas les villes les plus pauvres du monde. Mais quand il est arrivé au Brésil, bah non, il n'a pas commenté ça, ni au Burkina Faso d'ailleurs. Et au Brésil, un mois plus tard, il a commenté Luc XVI avec la parabole du riche et de Lazare. Et Lazare qui est là à côté de lui. Et le riche, c'est pas que c'est un mauvais bougre. Le riche, c'est pas un monsieur qui a gagné son argent malhonnêtement. Il est tellement préoccupé par ses actions, ses placements, ses affaires et tout, qu'il n'a même pas vu le pauvre qui était à ses côtés. Ce qui fait que l'argent, en fait, rend aveugle, quoi. Et alors, le pape a dit, c'est une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire, mais qui m'inspire beaucoup comme dans ma mission de prêtre après. La parabole du riche et de Lazare en Luc XVI a pris une dimension mondiale. Et c'est vrai. Et les pays riches aujourd'hui sont très préoccupés parce que comment ils vont devenir encore plus riches, parce qu'ils ont leurs dettes, parce qu'ils ont ci. Et vous croyez qu'ils s'intéressent aux pays pauvres? Ils s'en foutent, ils n'ont même pas vu. Donc moi je trouve que cette phrase de l'évangile est d'une force incroyable, et je dois à Jean-Paul II d'avoir vu comment cette parabole, assez inconfortable, nous sommes d'accord, comment cette parabole est cruellement vraie aujourd'hui en 2011. Je suis désolé, alors que ça fait 6 ans qu'il est mort. Bon, et moi je les aime, ces pays, parce que j'arrive du Bénin, je suis très lié à Madagascar. Ben, je suis désolé, Luc XVI, c'est une parole qu'on fera bien de lire pour enfin ouvrir les yeux, quoi, et s'apercevoir que 3 points de suspension.
Vous avez quoi comme souvenir du consistoire de 2003 quand vous avez été élevé à la pourpre cardinalice?
Son extrême faiblesse. Oh, après, il s'est un petit peu retapé. En 2004, il a fait encore un ou deux voyages. Mais en 2003, il n'arrive même plus à prononcer nos noms, etc. Alors moi, tout d'un coup, je l'ai saisi de panique. Je lui dis, mais il nous fait cardinaux. Si ça se trouve, il meurt dans une semaine et on va avoir à élire alors qu'on ne connaît rien de rien de rien, quoi. Et puis après, il s'est un petit peu retapé, puis il a fait un voyage en Slovaquie, puis il a fait le voyage août 2004 à Lourdes, et puis, enfin bon, ça a quand même duré 1 an et demi. Entre-temps, il y avait eu le congrès eucharistique, il y avait eu des sessions de cardinaux, il y a un esprit fraternel qui se fait. Je trouve que c'est assez important qu'on se connaisse un peu, ou correctement, ou fraternellement, ou comme une communauté, avant un conclave. Mais c'est vrai que j'avais été effaré par son état d'extrême faiblesse. Il n'avait pas même réussi à prononcer nos noms. Enfin, c'était assez touchant, quoi.
À cette époque, on a souvent parlé d'une gouvernance mystique.
Gouvernance mystique. Je ne sais pas si je l'aime, je vais vous dire, parce que je pense qu'elle est vraie depuis le début. C'est-à-dire, c'est un homme qui, dans tout son ministère, depuis qu'il est prêtre, en fait, est gouverné mystiquement. Mystiquement, ça veut dire, c'est pas mystique échevelé avec des apparitions tous les quarts d'heure. C'est en fait, le sens concret, c'est Dieu qui commande. Ouais, c'est-à-dire, moi par exemple, quand il me vient une idée que je me balade dans la rue, bon, ça peut être une distraction, idiote, tout ça. Mais quand me vient une idée dans l'oraison, quand me vient le visage de quelqu'un pour la messe, ou quelque chose comme ça, je me dis attention, attention, c'est un cadeau du bon Dieu, tu as intérêt à faire attention. Et donc, j'essaye d'obéir vraiment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le mystère du Christ qui nous gouverne et qui nous éclaire. Bon, on se prépare, on réfléchit, on demande conseil et tout, mais enfin, il ne faut pas croire que l'Église se gouverne uniquement avec la petite tête, avec le mouvement cérébral ou avec les conseils de nos conseillers, quoi. Il faut être prudent, il faut être sage, il faut être vraiment complètement homme. Mais il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Donc l'idée de gouvernance mystique, je trouve qu'elle est très fortement vécue chez lui. Ouais. Il n'y a qu'à regarder le rapport à Padre Pio, il n'y a qu'à regarder les récits tout récents de Madame Poultavska, là, qui sont assez bouleversants, quand elle vient se confesser, 50 ans d'amitié. C'est vrai que moi j'ai la chance de connaître Madame Poultavska depuis 30 et 40 ans, et c'est une femme qui est complètement femme, évidemment, mère de famille, grand-mère, médecin, etc., qui a souffert du nazisme, la malmort, etc. N'empêche qu'elle sait que Dieu, c'est Dieu, quoi. Et qu'indépendamment des méandres, voire des catastrophes de l'histoire, parce qu'on peut dire qu'elle était entre les pattes du docteur Mengele, quand même, à Auschwitz, eh bien, que Dieu, c'est Dieu, et qu'il est largement au-delà des aléas de l'histoire. Ouais. Et ça, je crois que c'est vrai pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il a souffert du nazisme, il a souffert de la congélation communiste pendant des décennies, etc., etc. Enfin, il s'en fiche d'une certaine manière, parce qu'il sait que Dieu, c'est Dieu, quoi. Et donc, quand il arrive à Rome, il dit « Excusez-moi, mais Dieu, c'est Dieu. » C'est-à-dire, ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ, c'est lui qui libère, c'est lui qui vous libérera. Donc, c'est une phrase qui touchait aussi bien le jeune prêtre que j'étais, mais peut-être que l'adolescent de 15 ans, mais aussi que les grands chefs congelés, comme je les appelle, de l'Union soviétique à l'époque, voyez. En fait, tout le monde en a pris pour son grade, vous comprenez? C'est-à-dire que tout le monde, à partir de là, se disait, pourquoi est-ce qu'il y a une partie de mon être qui est fermée au Christ? Parce qu'on peut être un bon chrétien, aller à la messe, se confesser, faire tout ce qu'on voudrait, etc. Et en fait, d'avoir donné un petit secteur de sa vie au Christ, et le reste, je me le garde à moi, quoi. Il dit, non, 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 non. Si vous êtes chrétien, vous ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ, parce que c'est le Seigneur. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en fait, dans la façon dont Benoît XVI s'est présenté, vous savez, à sa première messe d'intronisation, donc en avril 2005, il a dit, moi, je ne vais pas inventer une nouvelle phrase. Donc, je vais prendre la suite. Et il a dit la même phrase, ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ. Et puis après, il a rajouté avec sa voix toute douce quelque chose qui était très, très fort. Il dit, il ne vous enlèvera rien. Et il vous donnera tout. C'est magnifique. On avait l'impression qu'en une seconde, arrivait un commentaire extraordinaire de ce que Jean-Paul II avait répété pendant 27 ans. Enfin, je sais pas, il y a une belle complémentarité là, entre deux personnes si différentes, et que le Seigneur, a inscrit dans la collaboration, puis dans la continuité.
Jean-Paul II fait réellement l'unanimité et pourtant, de son vivant, médiatiquement parlant, on disait qu'il avait l'image d'un pape réactionnaire, conservateur. Est-ce que finalement tout ça est oublié selon vous?
Je crois que le second point, donc qu'il soit très populaire et très aimé, c'est vrai, c'est toujours vrai. Vous voyez, par exemple, dans toutes les villes, nous à Lyon, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a proposer à pas mal de gens de supprimer la messe du dimanche matin, en tout cas à la cathédrale. Il y a une veillée de prière tout le samedi soir, et puis le dimanche matin, une messe à 8 h, et ensuite les gens viennent, la cathédrale sera comble, puisqu'il y aura un grand écran directement, et les gens chanteront, et verront, et écouteront, et participeront. Je vois pas pour qui d'autres on ferait ça. Tenez, par exemple, il y a eu une béatifiée française à Albi il y a 2 ans. Je pense que vous interrogez n'importe quel paroissien de Lyon, il ne savait même pas quoi. C'est-à-dire qu'il y en a une autre, moi je viens à Dax. Bon, moi j'enverrai un de mes évêques auxiliaires, parce que quand même c'est important, c'est une sorte de Saint-Vincent-de-Paul, on les aime beaucoup, les filles de la charité. Mais enfin, ça va toucher à peu près 2% du peuple catholique qui le saura, il l'aura lu dans les journaux, parce qu'ils font attention, mais les autres. Tandis que là, Jean-Paul II, tout le monde le sait, pas les catholiques, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde le sait, parce que du point de vue des médias, grosso modo, ben voilà, il y avait le mariage là, en Angleterre hier, et puis la béatification de Jean-Paul II dimanche. Donc ça touche tout le monde. Alors, bon là, c'est un monsieur qui a crevé l'écran du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à sa mort et son enterrement, on le sait. Mais on sait aussi qu'il a été fidèle à son message. Personne ne lui reproche. On sait qu'il a été fidèle au Christ, qu'il a voulu être un serviteur du Christ. Et on sait que dans le message du Christ, il y a des choses qui prennent le monde contemporain, non pas d'aujourd'hui, à chaque époque prennent, pour chaque moment de l'histoire, prennent le monde de front et s'opposent. Donc les chrétiens, si vous voulez, ça c'est une constante. Donc il y a des choses à l'intérieur des chrétiens, du message du christianisme, de l'évangile, des conseils concrets qui sont donnés, qui en fait provoquent de violents refus. Voyez, quand il va au Brésil en l'an 1980, il tombe sur les mêmes os que les premiers missionnaires jésuites étaient allés au Brésil, parce qu'on possède la moitié, les trois quarts, les 90% de la terre, on n'a pas du tout envie de les donner aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le partage de l'argent, fait que c'est quand même pas très très facile et ça ne le sera pas demain non plus. Donc les grands domaines, tout le monde les connaît, c'est le rapport au pouvoir, le rapport à la sexualité, le rapport à l'argent, quoi. Qui sont trois domaines majeurs dans notre existence, source de vie, source de joie, mais aussi source d'égarement, de violence ou de désastre. Et l'Église les aime, ces trois lieux, et en même temps demande qu'on soit sur ses gardes. L'argent, par exemple, parce que, comme je disais tout à l'heure, il rend aveugle, mais des fois il rend fou aussi d'ailleurs. T'es devenu fou, quoi. Mais c'est vrai, le pouvoir aussi. Écraser ceux qui sont mes concurrents, etc. Et la sexualité aussi donne des blessures et des violences qui sont après des blessures qui vont durer toute la vie. Ils étaient complètement fous. Oui. Donc, l'Église toujours dira ces lieux-là sont majeurs, sont fondamentaux, ils sont le lieu de notre dignité, de notre plaisir, de notre joie, de la source de la vie, de tout ce qu'on peut faire de bien à soi-même, aux autres, etc. etc. Mais s'il vous plaît, méfiez-vous. Ce sont des bons serviteurs. Si vous vous servez de votre argent comme un bon serviteur, vous allez bien élever vos enfants, vous allez les cultiver, vous allez faire avec eux un voyage, vous allez penser aux pauvres, vous allez en partager avec tous ceux qui en ont besoin, parce que quand même, il y en a d'autres qui n'en ont pas, etc. Donc si l'argent est un serviteur, c'est un bon serviteur. Le jour où il devient un maître, c'est un très mauvais maître, parce que rapidement, ça devient un tyran. Mais ça, je peux le dire à propos de la sexualité, je peux le dire à propos du pouvoir. En fait, Jean-Paul II l'a dit. Et il l'a dit de manière cohérente. Voyez. Alors, ça, c'est quelque chose qui toujours soulèvera l'étonnement, la surprise, parfois l'admiration. Il y en a beaucoup qui deviennent chrétiens à cause de ça, en disant, mais là, il y a une joie incroyable. Là, il y a une source de vie incroyable. Les gens sont très, très touchés par ça. Mais aussi, parfois, de violentes révoltes. Ma propre grand-mère, par exemple, quand je suis devenu prêtre, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce métier-là? Tu vas perdre ton temps, tu ne pouvais pas trouver une jolie fille à la faculté, etc. Je dis, si, peut-être. Mais enfin, d'abord, ce n'est pas sûr que ça l'aura rendue heureuse, elle, la pauvre. En tout cas, d'abord, premièrement, je fais ce que Dieu me demande. Et comme elle ne croyait pas en Dieu, je dis, mais j'ai quand même le droit de faire de ma vie ce que je veux. Elle me dit, oui, tu as raison. Bon. Mais vous voyez, donc en fait, ces témoignages qui traversent les siècles du célibat consacré, de renoncer à l'argent, etc., ou en tout cas d'avoir sur ces domaines-là une parole qui soit forte et claire, provoquent toujours de violentes réactions. Je vous renvoie à un des premiers textes de la tradition chrétienne. Donc vous avez un gouverneur romain à Alexandrie qui s'appelle Diognète, et il dit, mais les chrétiens c'est quoi? Parce que j'en vois plein qui arrivent. Et donc on a la lettre à Diognète, c'est très intéressant, qui est un texte dans lequel il a un rapport, quoi. Comme on aura un rapport de police ou gendarmerie ou des services secrets, qui dit, j'ai été faire mon inspection dans ce groupe-là. Ils s'habillent comme tout le monde, ils ont des enfants comme tout le monde, ils mangent comme tout le monde, ils sont comme tout le monde. Et pourtant, pour moi, ils ne sont pas comme tout le monde, parce qu'ils ne couchent jamais avec la femme du voisin, parce qu'ils respectent leurs enfants, ils ne les tuent jamais, parce que ceci, parce que cela. Puis ils se réunissent le dimanche, ils ont un repas tout à fait extraordinaire, ils chantent, enfin. Alors, ils sont vraiment à part, quoi. Et alors, il y a cette formule extraordinaire, ils obéissent aux lois paradoxales de leur étrange république spirituelle. Et bien, cette phrase, elle date de la fin du IIe siècle. Et bien, elle a traversé et elle traversera tous les siècles. Voyez. Ils obéissent aux lois étranges, non, aux lois paradoxales, de leur étrange république spirituelle. Et ça, ça touche beaucoup. Je pense par exemple à un garçon de mon diocèse qui s'approche de l'ordination diaconale, qui va bientôt être prêtre. Il lui était une famille pas croyante. Un jour, je lui dis, raconte-moi. Il me dit, quand j'étais en sixième, j'avais des copains qui allaient au cathé, qui faisaient la communion. Alors j'ai dit à mes parents, pourquoi moi je ne vais pas au cathé, pourquoi je ne fais pas ma communion? Et les parents, qui étaient des bons parents athées français, leur dit, mais tu sais bien que tout ça c'est des bêtises. Donc quand on a 12 ans, on croit papa et maman. Et puis, quand il était en première, ses copains ont fait leur confirmation. Ben là, à 15-16 ans, on n'écoute plus papa et maman de la même façon. Donc, il n'a rien dit à papa et maman. Et puis, il a discuté avec ses copains. Et alors, il a dit, mais pourquoi vous faites vos confirmations? Mais c'est quoi? Etc., etc. Et alors, à partir de ce moment-là, est né ce sentiment en lui. Donc là, il a peut-être 15-16-17 ans. Et j'ai compris que ces gens-là, ils avaient une joie que je n'avais pas. Donc lui, il réussissait très bien en classe, tout allait très bien pour lui. Il avait les parents, il avait une bonne santé, il avait de bonnes études, il avait une intelligence qui marchait bien, il passait en classe supérieure, pas de problème, et le sport et tout ce qu'on voudrait. Et pourtant, il disait, non. J'ai senti qu'ils avaient une joie que je n'avais pas. Et c'est ça qui a déclenché en lui le baptême. Donc il savait qu'être chrétien, c'est être à part. Donc un chrétien, c'est comme tout le monde, parce qu'il fait son jogging comme tout le monde, parce qu'il a son portable comme tout le monde, parce que, etc., etc. Il aime bien les bonnes choses, etc. Et en même temps, c'est à part. Mais ça, c'est écrit dans l'Évangile. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, ils sont dans le monde, ils sont comme tout le monde, et en même temps, ils n'obéissent pas à la logique du monde qui va être une logique, je ne sais pas quoi, au niveau du carpe diem, de prendre les petits plaisirs de chaque jour, il n'y a que ça qui compte, le reste on s'en fout, bon, c'est affreusement égoïste, parfois désespéré. Ou bien au niveau des grandes perspectives internationales, qui est une espèce de logique des tanks et des banques, quoi. Non, on ne rentrera pas dans cette logique. Donc Jean-Paul II a été critiqué parce qu'on voyait la parole du Christ, la vérité du Christ, la vérité de l'Évangile dans son attitude, et en fait il a été aimé comme homme, parce qu'il y avait chez lui quelque chose d'extraordinairement authentique. Il aimait vraiment les gens, c'était pas fin, c'était vrai. Et quand il s'arrêtait auprès handicapé, quand il prenait un gamin dans les bras, quand il faisait attention aux gens, quand il aimait les foules, quand il parlait aux jeunes, c'était vrai, personne ne peut le contester. Et en même temps, son message, parfois c'était dur, donc il y a des gens que ça a profondément converti, et d'autres qui ont manifesté leur hargne ou leur rage contre. Voilà, bon, mais tout ça sonne juste, quoi. Tout ça sonne lumineux et clair.